Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Marc-Antoine El-Mazega, qui dirige le Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Marc-Antoine a soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques sur le transit du gaz russe par l'Ukraine en 2010. Il a ensuite travaillé pendant 6 ans à l'Agence internationale de l'énergie avant de rejoindre l'IFRI, où il publie régulièrement sur les questions liées à la transition énergétique. Sa dernière étude, coécrite avec Diana Paula-Gerasim et publiée en janvier 2024, porte sur les adaptations possibles du Pacte vert pour l'Europe, le fameux Green Deal, au choc géopolitique. Les publications du Centre Énergie et Climat de l'IFRI analysent notamment les réglementations européennes avec une grande précision. Elles revêtent de ce fait une dimension technique que nous n'allons qu'effleurer aujourd'hui. J'aimerais commencer par une question très large. L'échelle européenne est-elle plus pertinente pour penser et agir sur la transition énergétique et donc le changement climatique que l'échelle nationale ?
Merci à tous les deux. Je suis très heureux de pouvoir partager certaines de nos analyses sur cette transition énergétique en Europe. Alors, peut-être pour commencer, la transition, en fait, il n'y a pas un seul modèle de transition, il y a plusieurs transitions. Il n'y a pas une trajectoire qui serait parfaite et d'autres qui seraient moins bonnes. Évidemment, chaque trajectoire est spécifique aux contraintes locales, nationales, régionales, etc. Toutes les échelles d'action pour préserver le climat sont bonnes. L'échelle micro-individuelle, l'échelle territoriale, les villes, les villages, l'échelle évidemment régionale, supra-régionale, les grandes régions, par exemple celle du Rhin, ou qui d'ailleurs rassemble aussi des États qui ne sont pas tous dans l'Union européenne, par exemple la Suisse. Et puis évidemment l'échelon européen et au-delà, en Europe, on travaille évidemment avec le Norvège, le Royaume-Uni, etc. Là où il y a évidemment une spécificité, c'est qu'en Europe, nous avons le marché unique et que c'est un ensemble de règles qui s'appliquent à toutes et tous, entreprises, citoyens particuliers, etc. Et c'est à l'échelle de cet ensemble, évidemment, que se construit du coup cette transition européenne, avec peut-être quand même deux limites. La première, c'est que la responsabilité des mix énergétiques, ou alors plutôt des bouquets énergétiques en bon français, celle-là incombe aux États. Il n'y a pas de compétence européenne sur ce bouquet énergétique. Et la deuxième, c'est que donc l'enjeu pour l'Europe, c'est de coordonner ses politiques et pour éviter des différences de rythme, pour éviter une fragmentation, pour éviter des choses qui sont incompatibles. Mais tout le grand enjeu, c'est quand même de faire travailler ensemble des pays qui restent souverains sur leurs choix nationaux. Et donc, pour caricaturer, ça donne une tendance à préférer le nucléaire en France et une tendance à préférer les énergies renouvelables en Allemagne.
Et est-ce que vous pourrez revenir sur la genèse du Green Deal et sur ses différentes composantes ?
Le Green Deal a été énoncé il y a plus de 4 ans, sur la période septembre à décembre 2019, après les élections européennes de juin 2019. Élections qui, dans le contexte actuel, sont intéressantes parce qu'on prévoyait, avant les élections, une montée des forces populistes, de gauche comme de droite. Et finalement, les élections ont donné l'avantage aux partis qui prônaient une accélération de l'effort sur les transitions énergétiques et qui parlaient du climat plutôt que les autres. Donc ça, c'était la surprise. Et la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, se lance dans ce projet, le Green Deal, qui est en fait une grande stratégie de décarbonation accélérée de l'Union européenne, qui a pour particularité de viser, et en cela c'est exceptionnel, c'est jamais vu en fait à l'échelle planétaire. Dans le reste du monde, on a des politiques sectorielles, et jusqu'à présent l'Union européenne avait des politiques sectorielles, par exemple sur l'efficacité énergétique, par exemple sur les énergies renouvelables. Mais pour la première fois, on vise à travers un paquet de mesures qui était encore à définir, hein, mais on vise l'ensemble des gaz à effet de serre, donc pas juste le CO2, mais l'ensemble, et il y en a un certain nombre qui sont très évidemment dommageables pour l'environnement. On vise l'ensemble des dégradations environnementales, et au lieu de ne se contenter d'agir que sur l'un ou l'autre élément de politique publique, on vise à finalement créer une cohérence dans l'ensemble et à agir sur tous les fronts. Et ce programme est ensuite adopté législativement par le Parlement européen. Il fait consensus parmi les 27. Alors ça n'a pas été simple parce que vous vous souvenez qu'on a eu le Covid, vous vous souvenez qu'on a eu des appels à dire non mais les industries sont déjà très très affaiblies par la pandémie et donc on ne va pas leur rajouter ces contraintes, il faut arrêter tout cela, etc. Donc ce petit discours qu'on entend actuellement, on l'avait déjà entendu là, mais le Green Deal a survécu, il est devenu un élément central des plans de relance communautaires qui ont été mis en place et il a ensuite été donc ancré dans la législation européenne avec l'objectif de 2030 de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Là, on était à peu près un peu plus de 36% de baisse, donc il faut rajouter 18-20 points de baisse, c'est quand même considérable en 7 ans. Et puis, 2050, la neutralité climatique, ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas d'émissions, mais ça veut dire que toutes les émissions qui restent devront être compensées. Et on pense par exemple aux solutions négatives comme l'absorption dans les océans, dans les forêts, ou par des techniques d'ingénierie.
On va revenir plus spécifiquement sur les chocs géopolitiques qui ont eu lieu depuis 2019, donc le lancement de ce Green Deal. Vous avez mentionné le premier qui est le Covid, la pandémie, en 2020. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'impact ou les impacts même indirects de cette pandémie sur la mise en œuvre du Green Deal? On pense évidemment à la hausse de l'endettement public et vous avez mentionné dans vos publications passées le mur de l'endettement, le mur des investissements surtout qu'il faut pour assurer cette transition énergétique. Mais au-delà de cette question de l'endettement et des investissements, quel a été donc l'impact du Covid sur cette transition énergétique?
Je dirais que, peut-être juste pour reprendre un peu le fil de la question précédente, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une crise, il y a un tiraillement entre ceux qui appellent à mettre la pédale sur le frein et ceux qui, au contraire, appellent à redoubler d'efforts. Et la guerre en Ukraine, l'invasion russe, ses conséquences avec le découplage très large des approvisionnements en hydrocarbures de Russie, tout cela a provoqué un choc énergétique sans précédent en Europe. La réaction quasi unanime, qui celle-là est, j'allais dire, presque scientifique, c'est que si vous dépendez trop des hydrocarbures, en particulier d'un seul État, la meilleure stratégie qui soit, c'est d'essayer de sortir des hydrocarbures aussi vite que possible et de développer des solutions, bien sûr, bas carbone, mais qui apportent aussi de la résilience et une diversification des chaînes de valeur et donc plus de, au fond, plus d'autonomie, plus de résilience. Et les choix qui ont été faits sont allés dans ce sens-là. Il y a eu un sommet des chefs d'État et de gouvernement en mars à Versailles. Vous vous souvenez que c'était sous présidence française du Conseil européen. Et les chefs d'État et de gouvernement, dans leur déclaration de Versailles, appellent à finalement redoubler d'efforts, accélérer encore davantage. Et c'est ce fameux plan qui s'appelle Repower EU. Et au fond, c'est un grand slogan, c'est une immense ambition. Alors bien sûr, quand on fait les calculs, on se dit mais on ne peut pas gravir aussi vite autant de marches, les investissements ne vont pas suivre. De surcroît, évidemment, dans un contexte où on ne le voyait pas encore vraiment, mais en fait, on est entré dans un monde d'inflation un peu systémique quand même. Et la transition énergétique est elle-même porteuse d'une inflation systémique parce que, au fond, on ne va pas chercher la production la moins chère qui soit, mais naturellement, si on y inclut les coûts de la pollution et si on cherche à préserver son industrie domestique pour la rendre plus résiliente par rapport à la concurrence extérieure, etc., enfin, tout ça génère des coûts supplémentaires. Et sans parler, bien sûr, des tensions sur le marché du travail. Vous savez qu'on est quand même dans une situation historique aussi. C'est paradoxal. On a connu des crises majeures, mais en situation de quasi plein emploi. Donc ça veut dire que l'immense majorité des nouveaux emplois dont on aura besoin pour déployer ces technologies bas carbone, eh bien ces emplois-là ne sont pas pourvus à l'heure actuelle. Et la question centrale, c'est d'où va venir cette main-d'œuvre et comment la former à l'échelle et pour avoir ces compétences spécifiques. Alors, La conséquence numéro un, c'est que malheureusement, du fait des crises, la facture énergétique importée a augmenté. On a fait un calcul. Si on inclut cette année, ça a augmenté à l'échelle européenne de 600 milliards d'euros par rapport à la moyenne des années précédentes. 600 milliards d'euros, c'est autant d'argent qui n'est plus disponible pour les États, pour les particuliers, pour les entreprises. Donc évidemment, ça, c'est un immense manque. Le deuxième manque, bien entendu, c'est celui qui a été un peu la conséquence de ce choc brutal. C'est toute la production qui n'a pas eu lieu en Europe parce que les entreprises n'ont pas pu, évidemment, absorber ces coûts de l'énergie supplémentaires et donc ont réduit leur production, voire l'ont arrêté. Et là, il y a évidemment un manque à gagner et puis un affaiblissement des acteurs. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'on a eu une hausse des taux d'intérêt, une hausse de l'inflation. Et cela, évidemment, a un impact très fort sur l'investissement et sur le coût de déploiement de ces projets. Donc je dirais, pour résumer tout ce propos, évidemment, le réflexe et le bon jugement, c'est de vouloir accélérer, mais c'est en réalité devenu encore plus difficile qu'avant. Les contraintes qui pèsent sur tous les acteurs sont plus fortes et notre marge, notre chemin de crête est vraiment encore plus étroit qu'avant.
Avec Cathy, on avait prévu en fait de distinguer deux chocs géopolitiques majeurs ou deux chocs, je ne sais pas comment les qualifier, sociétaux aussi majeurs et économiques. D'abord le Covid et ensuite l'invasion de l'Ukraine de 2022. Et là, effectivement, vous avez un peu anticipé en parlant de l'Ukraine. Est-ce que c'est parce qu'en réalité, du point de vue de la transition énergétique, il est difficile de faire la différence entre les deux parce que les conséquences sont en partie les mêmes sur la hausse des prix, l'inflation, etc. Enfin, tout ce que vous avez évoqué. Ou est-ce que c'est autre chose et simplement 2020, 2022, enfin le rythme de l'histoire s'est accéléré et on a eu un peu du mal à suivre ce rythme.
Je dirais que c'est en réalité 2020, donc la pandémie vient renforcer un certain nombre de facteurs que l'on voyait déjà. Et vient entretenir et renforcer encore la crise énergétique et les chocs que l'on a eu ensuite. Je m'explique. Par exemple, 2021, relance de l'économie chinoise, les chaînes de valeur se tendent, le coût du transport maritime explose. On voit un certain nombre de composants des chaînes de valeur qui sont essentielles qui n'arrivent plus dans les usines. On a les industries automobiles européennes qui, en grande partie, ont des capacités de production réduites, voire sont à l'arrêt, des chaînes entières à l'arrêt. Et là, on voit en fait déjà les choses se tendre. Et une inflation de fait qui s'enracine en réalité. Ensuite, on voit les prix du gaz qui commencent à remonter à partir du mois de mai-juin 2021. Et cette remontée se poursuit parce qu'en fait, les Russes sous-approvisionnent le marché européen. Alors, il n'y a pas de violation contractuelle à l'époque. C'était dans le cadre des contrats, mais c'était très inhabituel. Et là aussi, du coup, cela fait remonter les prix d'électricité. Donc, on était déjà en fait sur une montée en tension. Arrive l'invasion avec les sanctions, l'embargo, etc. Et là, évidemment, tout remonte encore de plusieurs crans, les niveaux de prix, les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, il faut tout réorganiser. Et vous vous souvenez sans doute que la grande hantise à partir du mois d'avril-mai 2022 en Europe, d'un point de vue de sécurité d'approvisionnement, c'était « on va pas réussir à remplir nos stockages gaziers et on va manquer d'électricité du fait des problèmes de corrosion sous contrainte qui ont affecté le parc électronucléaire français ». Donc là, on était dans une période extrêmement difficile où la question qui était sous la table, et tout le monde se prépare à cela, c'était de faire des plans de réduction de la consommation, mais voire de réorganisation de cette consommation, où l'on détermine quels consommateurs vont avoir le droit d'être continués d'approvisionner et lesquels vont en réalité, le cas échéant, devoir être coupés. Et évidemment, on s'imagine bien que tout le monde voulait être dans la catégorie de ceux qui restaient approvisionnés et tous les autres voulaient surtout pour éviter d'être coupés. Et je dois dire peut-être une remarque, c'est que on ne se rend pas compte, je pense, où on oublie très vite peut-être, dans le débat public, à quel point on a été extraordinairement protégé en Europe par l'Europe, et en France en particulier, à la fois pendant la pandémie, mais aussi surtout pendant les crises de l'énergie. Parce que, au fond, les hausses des prix de l'électricité ou du gaz qui ont lieu depuis sont relativement infimes par rapport à ce qu'ont vécu d'autres pays en Europe. Et une autre chose qu'on oublie souvent aussi, c'est que En fait, on est sorti d'une période exceptionnelle, presque anormale, de prix de l'énergie très bas, et qui était anormale parce que ces prix-là n'ont pas permis l'investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques et surtout n'auraient en aucune façon permis de réaliser tous les investissements dont on a besoin pour décarboner. Donc de toute façon, cette parenthèse, ce monde-là s'est arrêté de façon brutale, mais c'était absolument nécessaire. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle d'une politique sociale qui est vraiment ciblée vers ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit d'éviter évidemment d'arroser tout le monde ou de faire des marches avant, des marches arrière sur les subventions aux énergies fossiles, etc. Mais le mouvement, celui-là, il est inévitable. L'énergie est rare, on sera en déficit structurel d'électricité bas carbone, donc il faut la consommer de façon la plus efficace possible et en payer le vrai prix. Et ce vrai prix-là est plus élevé que ce qu'on a eu jusqu'à présent.
Marc-Antoine, on va maintenant évoquer les métaux critiques et les terres rares. À quel point la transition énergétique crée-t-elle des nouvelles dépendances et la stratégie européenne pour faire face à ce problème vous semble-t-elle suffisante ?
Alors peut-être, merci pour cette question, peut-être un petit point méthodologique sans paraître trop, j'allais dire, universitaire, mais qu'est-ce que c'est que cette criticité dont on parle tout le temps et à quoi on fait référence ? Au fond, il y a énormément de métaux, très abondants, mais on peut avoir des métaux très abondants qui deviennent critiques et inversement des métaux dont on dit qu'ils sont critiques mais qui en réalité ne le sont pas. Alors de quoi parle-t-on ? La criticité, c'est finalement la notion de contrainte sur un approvisionnement présent ou à venir lié à l'offre, à la demande. Et quels sont les critères ? Traditionnellement, on se concentrait que sur les critères géologiques ou économiques. Et ça, c'est la même chose pour l'industrie des hydrocarbures. Mais avec le temps et le monde évoluant, bien sûr qu'il faut y incorporer aussi des critères géopolitiques, une forte concentration de ressources dans des pays dits dans des zones grises comporte quand même plus de risques qu'une concentration dans des pays type OCDE, Canada ou Australie, États-Unis, ou voire Suède, dans lesquels évidemment les règles de droit s'appliquent et où il n'y a pas de risque géopolitique ou un faible risque géopolitique. Ensuite, s'ajoutent des critères géoéconomiques, puisque vous pouvez avoir un approvisionnement très diversifié, mais en réalité contrôlé par une seule ou même entreprise ou pays, ou un groupe d'acteurs qui, en fait, sont tous contrôlés par un seul et même pays ou une seule et même entreprise. Et puis ensuite, quand on poursuit cette analyse de la criticité, on se rend compte que de plus en plus, le sujet va être celui de comment est-ce que l'environnement, l'accès à l'eau, la déforestation, la réhabilitation des sites miniers ou au contraire leur destruction, comment cela va avoir un impact sur la disponibilité de ces ressources. Et donc, je prends un exemple simple, le cuivre. Eh bien, on sait que d'ores et déjà, une partie des réserves disponibles de cuivre vont avoir du mal à être exploitées, même si le prix est le bon, même si on a la technologie, même si on a les entreprises diversifiées, etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'eau pour aller exploiter et transformer ce cuivre. Donc là, il y a un vrai sujet. Et puis le dernier sujet qui apparaît désormais, et pour ceux qui suivent un peu l'actualité internationale, ont vu un exemple là récent au Panama, mais il y en a d'autres, c'est évidemment la question des sociétés avec... partout où il y a des projets miniers, eh bien, les populations locales, des groupes d'intérêt qui, finalement, maintenant se mobilisent en disant « on veut être impliqué dans le projet, on ne l'a pas été, on s'inquiète, on a déjà des cas où, en fait, nos droits, etc., ont été bafoués, où l'environnement a été spolié, où notre cadre de vie se dégrade. » Et cela est, en fait, très puissant, de plus en plus puissant, et fait partie, maintenant, pleinement de cette notion de criticité. Donc, elle est multiple, ça complexifie, évidemment, le sujet, mais c'est cet ensemble de facteurs qui fait qu'effectivement notre approvisionnement à venir en métaux risque d'être contraint pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous. L'autre aspect, alors évidemment, c'est quand on parle de géopolitique et de géoéconomie, c'est que la Chine joue un rôle prépondérant. Un autre aspect, c'est souvent on pense que les métaux c'est un sujet d'extraction, mais en réalité c'est avant tout le goulot se situe au niveau du raffinage, de la transformation, par exemple. Pour une batterie de véhicule électrique, ce qui va compter pour sa performance, c'est bien sûr la chimie, que ce qu'on met dedans, mais surtout quelle est la le degré de pureté des matériaux qui y sont inclus. Plus ils sont purs, mieux c'est. Mais en fait, ça, ça demande des technologies. C'est souvent très problématique pour l'environnement. Et pour l'instant, la Chine est absolument à la pointe de ces technologies-là, Et d'une manière générale, le problème, c'est quoi ? C'est que nous maîtrisions, nous, occidentaux, l'ensemble du monde des hydrocarbures. Ce monde fossile-là, toutes les technologies, tous les aspects logistiques, que ce soit la production d'électricité, etc., etc., toutes ces technologies-là, on les maîtrisait. Sur les technologies de bas carbone, contre toute attente, la Chine a pris une avance fulgurante. Et elle a eu l'intelligence de non seulement mettre l'effort sur les technologies, mais aussi sur les échelles de production, mais aussi évidemment sur les métaux et leur raffinage. Et aujourd'hui, en fait, le temps minier, c'est au moins 10 ans, et le temps d'investissement dans les technologies bas carbone, c'est entre 1 et 3, voire 4 ans. Et là, il y a évidemment un étau dans lequel on se trouve. Et puis, je suis un peu long.
Pas du tout, c'est que je voulais demander un complément qui est, est-ce que vous pouvez nous donner une échelle, j'allais dire, de nos dépendances en termes, il ne s'agit pas d'abreuver les auditeurs de chiffres, mais quand même quelques chiffres marquants sur le niveau de notre dépendance actuelle à l'égard de la Chine, les objectifs qui sont fixés par l'Union européenne d'ici quelques années en termes de réduction des dépendances, et puis répondre à la question posée par Cathy qui est, est-ce que ça vous semble suffisant ou pas, cette stratégie européenne ?
Bien sûr. Là où nous avons les problèmes les plus importants, potentiels, parce que pour l'instant les marchés restent bien approvisionnés. En fait, on a eu une chute des prix récente parce que en fait, l'économie chinoise est ralentie. C'est sans doute sur le cobalt, c'est sans doute sur le nickel. Et encore, par exemple, prenons juste rapidement l'exemple du nickel. On produit du nickel en Indonésie. En soi, l'Indonésie, ce n'est pas un pays qui nous est hostile. C'est un grand pays de l'ASEAN qui a posé sa candidature à l'OCDE, avec laquelle les négociations d'adhésion viennent de commencer. Donc sur le papier, tout a l'air normal. Mais le problème, c'est qu'il y en a deux. Un, ce sont pour l'essentiel des entreprises chinoises qui développent le cobalt en Indonésie et qui raffinent le cobalt de qualité batterie. Et deuxième problème, le mix électrique de l'Indonésie est très largement dépendant du charbon, donc l'empreinte carbone de cette production de nickel est très mauvaise. Alors en Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas très bonne non plus, mais on pourrait dire la Nouvelle-Calédonie, au moins, il y a moins de questions de souveraineté, etc. Mais on a quand même, on y retrouve ce problème et du raffinage et puis de l'empreinte carbone de la production. Autre gros souci, le cobalt. Le cobalt, je l'évoquais, c'est la RDC, mais en RDC, c'est pour l'essentiel des entreprises chinoises. Alors il y a aussi Glencore qui est très présent, le géant suisse, maison de négoce suisse qui est devenu en fait un grand acteur minier aussi. On a des interrogations sur le graphite, on a des interrogations sérieuses sur le cuivre, peut-être moins désormais sur le lithium. Il y a abondamment de lithium, énormément d'acteurs vont en produire dans le monde entier, y compris en France, avec le lithium d'origine géothermale avec les saumures, ou alors dans l'Allier, puisqu'il y a un projet minier très intéressant qui va, espérons-le, pouvoir être développé là. Mais pareil, sur le lithium, un des enjeux va être son raffinage, et ces infrastructures-là, pour l'instant, sont très peu présentes en Europe. Alors, l'Europe a réagi face au constat, un, d'une très forte augmentation de la demande à venir pour un certain nombre de ces métaux, deux, des risques de criticité avérés ou à venir que l'on a évoqués tout à l'heure, et sa réaction est arrivée en deux temps, sous la forme de ce qu'on appelle le Critical Raw Material Act et sous la forme de la régulation batterie. Et c'est très important parce que les Européens qui ne produisent pas grand-chose, qui ont des petites entreprises minières par rapport aux géants mondiaux, essaient donc finalement de réagir. Et comment ils le font ? D'abord en disant la priorité principale, ça va être de recycler chez nous et d'avoir des obligations d'incorporation de matières recyclées dans les nouvelles batteries ou dans les nouveaux véhicules électriques. Ça, c'est très important parce que du coup, on crée automatiquement le marché. Et ce qui est recyclé chez nous, évidemment, c'est de la matière ensuite dont on ne dépend pas des autres pour l'obtenir. Ça, c'est important, c'est un premier volet. Deuxième volet des Européens, c'est de dire on va essayer de renforcer les efforts visant à faire varier les chimies. Donc, on va soutenir l'innovation, on va soutenir la R&D. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, vu l'extra-dépendance au cobalt, les grands acteurs du secteur se sont dit ben, il faut qu'on développe des chimies qui ont les mêmes performances, voire évidemment mieux, ça c'est l'idéal, mais sans cobalt. Et on voit maintenant les nouvelles chimies de batterie, par exemple celles dites LFP, lithium-fer-phosphate, qui n'ont pratiquement plus de cobalt, voire pas du tout, qui se développent. Alors, avec d'autres conséquences hein, sur d'autres matières, mais les choses ne sont pas figées. Troisième volet de l'action européenne, c'est celle qui vise à améliorer, évidemment, à renforcer l'activité minière en Europe ou à l'étranger. Et là, on part de très loin, mais on a des pays miniers en Europe, la Suède, la Finlande, bien sûr. Mais la France était aussi un pays minier. On avait beaucoup d'extraction de charbon, on avait toute une culture. Alors évidemment, on l'a un peu oublié, etc. Mais il y a un certain nombre de ressources qu'on peut réactiver. Et bien sûr, l'immense enjeu, c'est celui de l'activité minière à l'étranger, hors Union européenne, et puis du raffinage. Et là, le problème, c'est que les ordres de grandeur, c'est pas de dizaines de millions, c'est plutôt du milliard, des dizaines de milliards qu'il faut mobiliser. C'est d'avoir des activités qui sont potentiellement polluantes, très risquées. Et là, évidemment, quand on fait la somme des moyens mobilisés, on est très loin du compte. Et en Afrique, par exemple, ce sont pour l'essentiel des entreprises canadiennes, australiennes ou américaines qui sont actives, aux côtés d'un certain nombre originaires d'Afrique du Sud. Pas du tout les Chinoises, comme on l'entend souvent, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai que les entreprises européennes sont là sporadiquement et insuffisamment.
Pour parler maintenant des émissions de CO2, les 27 pays de l'Union européenne ne représentent que 7% des émissions de CO2 au niveau mondial. Il faut donc élargir la focale. Le premier pôle d'émissions de CO2 est l'Asie, avec en particulier la Chine et l'Inde qui occupent respectivement la première et troisième place du classement des principaux émetteurs. Ces pays mettent en avant la thématique de la justice climatique, mais la Chine se présente aussi comme une civilisation écologique. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre ces concepts et à décrypter ces apparents paradoxes ?
Alors c'est vrai que l'Union européenne, est largement dépassée par d'autres très grands émetteurs. Et les émissions de gaz à effet de serre, vous avez évoqué le CO2, mais les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne ont très fortement chuté depuis 1990, du fait, alors certains diront, du désindustrialisation, c'est vrai en partie. Donc ça veut dire qu'en fait, les émissions, on les retrouve, mais elles sont comptabilisées ailleurs, en Chine par exemple. Mais les politiques d'efficacité énergétique en Europe ont eu un impact. Le mix électrique européen s'est déjà décarboné en grande partie, quoi qu'on en dise, y compris en Allemagne. Souvent, on dit que les Allemands ont remplacé le nucléaire par du charbon. Ça a été vrai quelques semaines durant, mais structurellement, ce n'est pas vrai. C'est pour l'essentiel des importations d'électricité française, de la production d'énergie renouvelable et un peu d'appoint à gaz. On a fait d'importants progrès. Et c'est vrai que maintenant, le problème, quand bien même on ferait d'immenses efforts en Europe, et c'est ce qu'on prévoit de faire, il reste la Chine et l'Inde. Alors, l'Inde, c'est un cas particulier parce que c'est le premier pays en termes de démographie de la planète, mais c'est un pays qui est très largement sous-doté en infrastructures et en capacité de production électrique. Pour le dire autrement, c'est un pays qui vient de sortir de l'extrême pauvreté énergétique, où à peu près 900 millions d'habitants restent pauvres économiquement, qui, au fond, a un parc électrique qui ne correspond absolument pas à son potentiel et puis à la taille de sa population et celle de son économie lorsqu'elle se sera pleinement développée. Et le contre-modèle, ou j'allais dire le miroir, c'est la Chine, qui a pratiquement, on va dire, le même nombre d'habitants, mais qui a 6 fois plus de capacité électrique installée, donc c'est absolument considérable, et évidemment qui a des émissions sans commune mesure, puisque 60% ou 58% de son électricité provient du charbon. Mais d'ailleurs, petite précision, souvent on pense que le charbon c'est que utilisé dans l'électricité, mais la moitié des émissions du charbon viennent de l'industrie en réalité. C'est les aciéries, c'est la pétrochimie qui sont très consommateurs de charbon. Alors, l'Inde nous dit quoi ? Elle nous dit, moi, gouvernement indien, ma problématique c'est de sortir du développement mes 900 millions de concitoyens qui sont pauvres, qui vont subir le changement climatique plus que tout autre, et c'est aussi le cas des subsahariens en Afrique, hein. Ils sont dans la même situation, ils n'ont pas du tout contribué au changement climatique, mais ils en seront les premières victimes. Et mon sujet, ce n'est pas le changement climatique, etc., parce que ça, c'est la responsabilité des pays dits du Nord, donc les États-Unis, l'Union européenne, mais il faudrait y inclure la Chine et la Russie aussi, ça, ils ne le disent pas. Et mon sujet à moi, c'est le développement. Et pour me développer, je vais avoir besoin de centrales à charbon. Bien sûr, je fais le maximum sur les énergies renouvelables. Mais pour moi, le charbon, c'est un enjeu de stabilité sociétale. C'est un enjeu de sécurité d'approvisionnement parce qu'il est présent là. Et c'est un enjeu de compétitivité. Et donc, quand on me fait des reproches à moi, Inde, parce que je construis encore des centrales à charbon, etc., en réalité, c'est une injustice, parce que le vrai problème, c'est que les pays du Nord ne réduisent pas assez leurs émissions et que, au fond, on ne me laisse pas me développer comme eux se sont développés. Et la Chine, elle, c'est un peu spécifique parce que, quand bien même c'est le plus grand consommateur de charbon au monde, le plus grand pollueur, eh bien, c'est aussi le premier pays où l'on déploie l'énergie photovoltaïque, où l'on déploie l'éolien, où l'on déploie la mobilité propre, que ce soit les bus ou les véhicules électriques. Et c'est aussi le premier pays aujourd'hui où l'on a construit des centrales nucléaires. Donc, en fait, la Chine est championne de tous les tableaux. Et de surcroît, si l'on a des panneaux photovoltaïques un peu partout en Europe, c'est grâce à l'industrie manufacturière chinoise qui produit à des échelles invraisemblables, a comprimé les coûts et a pu nous vendre tous ces équipements pas chers. Donc, au fond, on est là dans ces situations paradoxales. Et pour vous donner un peu quand même un peu d'optimisme, des raisons d'être optimiste, c'est que je pense que quand même l'effondrement des prix du photovoltaïque, cette insertion dans les systèmes électriques qui atteint des proportions que personne n'envisageait encore, c'est-à-dire que tous les ans on bat le record précédent et tout le monde est toujours battu sur les prévisions de déploiement. Donc ça c'est quand même extraordinaire et c'est le cas évidemment en Chine mais aussi en Inde. Donc on voit quand même là qu'on va pouvoir sauter certaines étapes. Je pense que les centrales à charbon seront beaucoup moins utilisées. Donc, quand bien même on en construit des nouvelles, on va pouvoir fermer des très vieilles qui sont moins efficaces et leurs facteurs d'utilisation vont se réduire. Mais partout, maintenant, on est confronté à un vrai problème, c'est celui de la flexibilité des systèmes électriques, des réseaux qui sont trop faibles, dans lesquels il va falloir investir massivement. Mais investir dans les réseaux, ça veut dire faire porter des coûts élevés pour les consommateurs ou alors pour les États. Mais les États doivent choisir ensuite investir dans l'armement, investir dans les réseaux électriques, c'est des vrais dilemmes. Et troisième problème qu'on avait, c'est que notre grande source de flexibilité pour l'électricité, c'est la technologie ou les centrales hydroélectriques. Celles-là sont de moins en moins fiables parce qu'on a, avec évidemment les aléas climatiques, de moins en moins de prévisibilité et de plus en plus de variabilité sur les rythmes de pluie et donc le remplissage des barrages, etc. Et pour le dire autrement, quand les barrages sont plus remplis, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On brûle plus de charbon, on importe plus de gaz, ou alors, dans les cas extrêmes, eh bien, il faut procéder à des restrictions d'utilisation. Et en Chine, ils n'hésitent pas à le faire, puisque dans un certain nombre de provinces, on coupe tout simplement la fourniture électrique, même en hiver, quand les choses sont trop tendues.
Bien, voyons voir si la dernière question nous permet de rester optimistes. On a parlé donc de la Chine et de l'Inde. Les États-Unis complètent le podium des plus gros émetteurs de CO2. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la trajectoire des États-Unis en matière de transition énergétique? Et puis, on ne peut pas éviter, évidemment, le sujet Donald Trump, puisqu'il y a les élections américaines à la fin de l'année, et que pour le moment, Donald Trump est donné vainqueur, même s'il faut évidemment rester très prudent. On se souvient que Trump avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Donc, quelle est votre analyse de cette perspective?
Les États-Unis sont, pour nous, pendant longtemps en tout cas, on les regardait en se disant « mais effectivement, c'est un peu le climate spoiler, le pays qui vient saper nos efforts, qui est dans le camp occidental ». Donc c'était souvent très gênant parce que face à la Chine, face à l'Inde, finalement, il fragmentait nos efforts. Et tout d'un coup, en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est le marché. Et ce sont les progrès technologiques qui ont propulsé le gaz, la production de gaz et son utilisation dans le secteur électrique à des niveaux jamais atteints, que personne n'avait vu venir là, et qui ont permis du coup deux choses, c'est de sortir une partie du charbon. Il y avait énormément de production d'électricité au charbon aux États-Unis et celle-là s'est naturellement réduite, et en même temps d'apporter beaucoup de flexibilité au système électrique américain. Et donc, de par ce fait-là, les émissions de CO2 ont commencé à se réduire aux États-Unis, même sous Trump. Quoi que Trump voulait faire avec la résurrection du charbon, etc., etc., ce mouvement-là était irréversible. La deuxième chose, c'est que est arrivé l'Inflation Reduction Act, et auparavant un certain nombre d'autres dispositions comme le Infrastructure Bill, qui ont mobilisé des moyens budgétaires et fiscaux sans précédent pour favoriser. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude en Europe. Mais nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait ? On se fixe des objectifs très, très, très ambitieux. Et ensuite, on se demande quand on va y arriver. Aux États-Unis, on ne fait pas du tout ça. Aux États-Unis, on se dit quels sont nos atouts industriels et technologiques ? Où est-ce qu'on a besoin d'emplois ? Où est-ce qu'il n'y en a pas ? Quels moyens peut-on mobiliser ? Où est-ce qu'on peut aller ? Et puis ensuite, on verra éventuellement si on se fixe des objectifs. Du coup, aux États-Unis, on a dit notre objectif, c'est de créer des chaînes de valeur, des technologies bas carbone qui soient résilientes, parce qu'on ne va pas imposer la mobilité électrique si on doit tout importer de Chine, je caricature, mais en gros. Et on va faire ça aux États-Unis, et on va du coup créer de l'emploi pour les Américains. Vous vous souvenez qu'une partie de l'explication qui avait été donnée de l'élection de Trump, c'est qu'on n'a pas vu finalement ce déclassement d'une partie des classes moyennes, cette fragilisation du fait de la globalisation avec l'entrée de la Chine après 2001 dans l'OMC. Bon. Et au fond, les États-Unis sont en train de connaître un essor du secteur manufacturier sans précédent, alors qu'en Europe, il est en érosion. Alors là aussi, il faut regarder dans les détails parce que ce n'est pas systématique. Même en Italie du Nord, ça se maintient un peu, etc. Mais en tout cas, aux États-Unis, il y a un mouvement très clair. Et on est en train, effectivement, de réindustrialiser un certain nombre de technologies bas carbone. D'ailleurs, en passant, c'est aussi inflationniste parce que ça coûte plus cher de fabriquer des panneaux photovoltaïques aux États-Unis plutôt que de les importer en Chine. Ça pose la question des biens sur lesquels il faut un protectionnisme et pour d'autres où au contraire ça serait néfaste à l'économie. Mais dans l'ensemble, disons que ce mouvement est amorcé. Ils connaissent quand même un certain nombre de difficultés structurelles. Il y a un réseau électrique extraordinairement vieillissant aux États-Unis. Il faut investir massivement là-dedans. C'est très peu interconnecté. Vous avez des grandes difficultés de coopération entre États. Évidemment, il y a des tensions sur la main-d'œuvre. Eux aussi ont des soucis pour finalement rendre leur chaîne de valeur des métaux plus résilientes. Tout cela prend beaucoup de temps. Donc, dans l'ensemble, je dirais que ils avancent dans leur décarbonation, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. Par exemple, je l'évoquais au tout début de notre entretien, si l'on part du critère des émissions de CO2, oui, il y a une nette baisse. Si on prend l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et qu'on inclut là-dedans les émissions fugitives de méthane, en réalité, il y a un vrai problème aux États-Unis parce qu'il y a énormément de fuites de méthane dans leur industrie des hydrocarbures. L'administration Biden essaie de faire des choses contre, mais l'industrie est très puissante. Et au fond, les choses n'avancent pas aussi vite qu'il ne le faudrait, puisque je rappelle que le pouvoir de réchauffement du métal est largement supérieur. Sur le temps court, c'est 80 fois pire que le CO2. Et là, ça coince sérieusement. Et là, il faut s'inquiéter si Trump est élu, je pense, pour effectivement la mise en œuvre de cela, même si certains disent les grands groupes qui opèrent à l'échelle mondiale feront les efforts. Mais en réalité, l'industrie est quand même très largement tirée par des centaines de petits acteurs qui, eux, se réjouiront de ne pas avoir à faire d'efforts financiers pour, boucher les fuites. Et dernier point, sur l'Inflation Reduction Act, il semblerait quand même que cet effort de résilience industrielle soit poursuivi. Est-ce que Trump quittera l'accord de Paris ? Est-ce qu'un président Trump quitterait à nouveau l'accord de Paris ? Peut-être, peut-être. Après, il peut aussi prendre le parti de dire que tout ça, de toute façon, is worth nothing. Et que donc, autant y rester. Cela dit, un chiffre quand même, ou en tout cas un fait, qui est indéniable et auquel les républicains comme les démocrates, auxquels ils ne peuvent échapper, c'est le fait qu'une grande partie, une partie grandissante en tout cas, du parc immobilier et de plus en plus économique américain n'est plus assuré. Et c'est pas comme si les assureurs donnaient aux gens envoyaient des lettres en disant c'est plus 50% votre cotisation annuelle parce que les risques augmentent et ça. Non, c'est du jour au lendemain, vous n'êtes plus assuré. Et ça, en termes de coûts macroéconomiques, c'est une bombe potentielle. Et donc ça veut dire que tout comme le gouvernement chinois, qui est très préoccupé par les dérèglements climatiques, on a vu des inondations épouvantables toucher Pékin, etc., le gouvernement Trump sera aussi forcé, finalement, d'être confronté à cela et de faire le constat que, ben, il faut agir face à ces désastres à venir.
Je me disais bien qu'on ne pourrait pas terminer sur une note optimiste, mais bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Marc-Antoine Elmazega, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.